Vous écoutez Lilin Info, le magazine consacré à l'Université Lilin, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Dans Lilin Info, aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée de l'Université de Lilin avec M. Salamouche, qui est vice-président du CEVU à l'Université des Sciences et Technologies de Lille 1. Bonjour M. Mahouche.
Bonjour.
Donc voilà, comme chaque année, on fait un petit point de rentrée. On est fin octobre. Bon, on peut dire que ça a redémarré maintenant. On est dans la matière.
Tout à fait, puisque la rentrée s'était prévue à la première semaine de septembre par une semaine de pré-rentrée. Puis après, les étudiants sont actuellement en plein même examen, on dirait, ils sont en plein milieu du semestre.
Oui, oui. Ouais. Ça passe vite pour eux aussi.
Peut-être un peu moins vite pour eux parce qu'ils ont des examens, mais un peu plus lent pour nous parce qu'on a quand même un peu plus de travail, en particulier avec les inscriptions en ligne cette année pour la première fois pour les néo-entrants, ça veut dire les premiers étudiants de l'INA.
Donc j'en ai vu pas mal qui étaient déjà un peu anxieux à l'idée de passer quelques épreuves.
Bah, je suppose que ça fait partie aussi de la formation, de les tester un peu sur ce côté-là. Mais c'est vrai que moi je suis plutôt content que ça se passe bien parce que vous savez que la bibliothèque est fermée, donc la bibliothèque se retrouve dans les salles d'examen, donc les étudiants passent leurs examens tous les samedis, voire un peu dans la semaine. Ce qui n'est pas facile à gérer, ça fait un peu une surcharge sur le personnel pour organiser les choses.
Mmh. Si on fait le bilan des inscriptions, des nouvelles modalités d'inscription.
Ouais. Oui, c'est ce dont on parlait. Je suppose qu'après le dernier CEVU, donc on a un peu réglé les choses, on a eu quelques difficultés. Il faut dire que les réinscriptions, ça veut dire les anciens étudiants de l'île 1, s'inscrivaient en ligne depuis 5 ans maintenant. Mmh. Seulement pour la première année, cette année, nous avons organisé des inscriptions en ligne et uniquement en ligne pour les néo-entrants. Ça veut dire qu'on a à peu près 6000 nouveaux étudiants qui rentrent chaque année à l'île 1. Il y en a d'autres qui partent. Donc on a eu quelques difficultés parce qu'on avait manqué d'informations, de chaînes d'information. Les étudiants ont envoyé leur dossier. Et en plus, pour la première fois, ils pouvaient s'inscrire en mois d'août. C'est bien que, comme l'université ferme au mois d'août, à la rentrée, grosso modo c'était autour du 27 août, quand on est rentré, on avait quand même quelques milliers de dossiers à traiter, donc à découvrir et à traiter. Donc ça a un peu occasionné du retard, Et l'information n'étant pas disponible sur une chaîne, alors que les étudiants, en particulier les néo-bacheliers, avaient l'habitude de venir sur une chaîne avoir des informations avec leur dossier, ça s'est un peu reposé sur les secrétaires pédagogiques qui ont assumé une certaine charge supplémentaire, chose qui n'était pas effectivement prévue. Mais je disais, depuis le CIVU, on a mis une information donc à la MDE, on distribue les cartes et on informe effectivement les inscriptions, disons, en retard. On est un peu en retard sur le nombre d'étudiants à inscrire, mais il y a une procédure d'inscription tardive qui est mise en place. Effectivement, ça permet de satisfaire un peu tout le monde.
Donc, satisfaire, effectivement, est-ce que tous ces nouveaux étudiants ont trouvé dans la filière qui les intéressait l'inscription choisie, souhaitée ?
Disons que pour les néo-bacheliers, ils choisissent dans l'application post-bac, ça veut dire, mais seulement comme l'université ne sélectionne pas, donc les étudiants qui nous arrivent, certains ont bien effectivement choisi l'université, donc ils ont déjà choisi un peu leur formation, ceux-là, ils s'y retrouvent. Mais il y a une petite partie qu'on peut estimer à peu près à 27-30% qui sont là parce qu'ils attendent une autre formation sélective qu'ils n'ont pas eu la première année. Donc on aura toujours, à mon avis, des difficultés. On n'est pas les seuls. Toutes les universités ont cette difficulté. Donc des étudiants qui n'ont pas trouvé leur filière suitée, qui viennent un peu par défaut donc à l'université. J'espère qu'ils vont trouver leur place et qu'ils vont pouvoir rester. Après, les autres qui viennent, ce qu'on peut appeler les entrées parallèles, en particulier des diplômes hors LMD, voire des diplômes étrangers, qui s'inscrivent directement par ce qu'on appelle les Campus France, ceux-là, ils choisissent Lille 1 le plus souvent pour une formation de master particulier ou de licence, et qu'ils le choisissent en conséquence. Donc, ils viennent par ceux-là, effectivement, ils viennent par choix.
27-30% d'une population, c'est quand même beaucoup hein, de gens qui flottent un peu là, non ?
Disons de la première année, ouais, pas ouais, de la totalité. Compris, ouais. Tout à fait, mais c'est bien, il y en a qui ils ont eu le bac, donc ils rentrent à l'université. Pour eux, c'est une forme aussi de liberté, c'est quelque part. Il y a quelques années, on avait interrogé ces 27, disons ce pourcentage, ça dépend peut-être des universités, entre 25 et 30%. Ces étudiants-là étaient satisfaits de l'année passée à l'université. Ils sont satisfaits parce qu'ils ont un peu mûri, ils sont satisfaits parce qu'ils ont vu le fonctionnement de l'université, ils sont satisfaits aussi parce qu'ils avaient retrouvé l'année donc d'après leur premier choix et qu'ils ont effectivement pu poursuivre leur projet professionnel et personnel.
Donc là, on est fin octobre. Est-ce que pour certains étudiants, il y a encore moyen de changer, de passer d'une filière à l'autre ou pas ?
Généralement, oui. Ça veut dire qu'on a des problèmes lorsqu'il y a beaucoup d'étudiants dans le secteur de la biologie, il y a beaucoup d'étudiants dans les secteurs de l'économie. On a aussi beaucoup d'étudiants dans le secteur de génie civil et de l'informatique. Je dirais dans ces groupes-là, c'est un peu plus difficile. Il faut qu'on soit sûr de la réussite de l'étudiant pour qu'on puisse les mettre, parce qu'on crée presque chaque année des groupes supplémentaires. Donc on ne peut pas assumer d'un point de vue potentiel. Mais lorsque les formations, quelqu'un qui rentre en première année, généralement, il peut changer au bout du semestre quand ça ne lui plaît pas. Donc en plein milieu d'année, c'est un peu plus difficile parce que par moment, les enseignements ne sont pas tout à fait bien ordonnés de la même manière, mais je dirais que ça reste possible.
Quelles sont les filières qui sont tout à fait honorables et dans lesquelles vous manquez un peu d'étudiants ?
Je dirais plus, je pense, dans le secteur de la physique, où on a un peu moins d'étudiants, on aimerait en avoir plus, d'autant plus que la physique conduit à beaucoup de métiers, pas uniquement le métier de physicien où ils calculent les doses de radiation dans les hôpitaux, mais la partie des matériaux, la partie maintenant à la limite de l'électronique. Donc il y a des choses qu'on peut faire. Les étudiants qui viennent là sont aussi intéressés un peu par la recherche, ça touche beaucoup l'environnement, donc peut-être des métiers aussi donc à faire connaître des jeunes. Mais on baisse la natalité, on est un peu en manque. Donc ces filières souffrent un peu, mais ces filières aussi, il faut travailler, il faut aimer, parce que c'est pas facile, c'est pas toujours facile.
Alors c'est vrai qu'on est dans un creux démographique, on va dire, hein, d'une manière générale. Quand vous organisez des opérations portes ouvertes, comme il y a eu avant les vacances, est-ce que ça a eu un impact ?
C'est difficile à mesurer réellement. Ça veut dire que portes ouvertes, c'est vrai que c'est plutôt des futurs bacheliers ou des étudiants donc de terminale, mais il y en a d'autres aussi qui viennent, mais c'est la majorité, c'est entre eux. Je dis c'est difficile parce qu'on participe aussi au salon, en particulier de l'étudiant, Est-ce que c'est le salon qui les attire? Est-ce que c'est les portes ouvertes? Je pense les deux. Mmh. Ils jouent effectivement. Mais il est sûr que ce qu'on fait aussi, c'est nos visites dans les lycées. Et en particulier un programme par réponse à l'appel d'offres de Martin Hirsch, qu'on appelle l'expérimentation pour les jeunes, qui s'appelle « Demain l'université », que l'île 1, l'île 2 et l'île 3 mènent ensemble. On a actuellement plus d'une dizaine de conventions, je pense que nous sommes à 13 ou 14 conventions avec les lycées. Donc on va dans les lycées pour expliquer aux étudiants le fonctionnement de l'université, mais expliquer aussi aux enseignants et aux parents. Ça se passe plutôt le soir. Et ça permet aussi de faire travailler trois universités ensemble. Donc c'est à ce niveau-là que, disons, qu'on prépare, qu'on essaye d'attirer les étudiants vers l'université.
Alors c'est vrai que les universités de la région sont pour la plupart regroupées dans le PRESS, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait.
Est-ce que néanmoins il y a une situation à l'intérieur qui est un peu de concurrence entre universités ou pas ?
Bon, je pense qu'il y a, toujours une certaine concurrence. Et comment, à la limite, la positiver, cette concurrence ? Au niveau de comment attirer effectivement des étudiants. Mais je pense que sur la région, je disais qu'on travaillait avec l'île 1, l'île 2, plutôt sur la métropole, l'île 1, l'île 2, l'île 3. Donc après, on essaye quand même beaucoup plus de satisfaire le projet, ce que veut faire l'étudiant. La concurrence est plutôt avec les filières plutôt sélectives. Il faut dire aussi que dans ce PRESS, il y a toutes les écoles. Il y a aussi l'Institut catholique donc, de Lille. Donc il y a une certaine concurrence, mais les publics se déterminent, disons, eux-mêmes. L'application post-bac est là pour dire que si quelqu'un est de Béthune, il va plutôt à l'université d'Artois ou de Lens. Si quelqu'un est de la région lilloise, mais ceci étant, on a aussi des étudiants qui viennent de partout dans la région, aussi bien du Nord-Pas-de-Calais qu'un peu plus loin.
Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont tentés par l'aventure belge, par exemple ?
C'est vrai qu'en Belgique, il y a beaucoup plus d'étudiants français que d'étudiants belges en France. On ne comprend pas exactement pourquoi est-ce que les étudiants belges ne viennent pas chez nous. Mais par contre, on sait pourquoi les étudiants français vont en Belgique. Ça concerne plutôt le secteur médical, le secteur, veto, infirmier, parce que... Disons que les concours ne sont d'une autre difficulté. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont formés en Belgique ne sont pas bons. Seulement, il y a une autre forme de faire. Il y a peut-être aussi une autre pédagogie. Mais la Belgique essaye aussi de limiter un peu le nombre d'étudiants. D'autant plus que quand on forme un vétérinaire, si tous les vétérinaires de Belgique s'en allaient, on aurait des difficultés à soigner nos amis les bêtes.
Est-ce qu'il y a une équivalence de diplôme ? Est-ce que les passerelles se font facilement ?
Globalement, oui. Ça veut dire que on est en principe dans le cadre du LMD. Après, il y a plutôt des séquencements des enseignements qui se font certains dans une année, certains dans d'autres. Mais dans toutes les universités, il y a ce qu'on appelle la validation d'études qui permet de regarder ce qu'a fait un étudiant dans une autre université ou une école et qu'après, c'est à nous de le mettre à la bonne année pour qu'il puisse effectivement bien suivre.
Alors au-delà de la Belgique, il y a également le système de double diplôme entre des pays qui ont des collaborations, on va dire.
Tout à fait. Nous avons quelques-uns, aussi bien en Afrique qu'en Europe, voire même aux États-Unis. On les cherche effectivement à développer. Les doubles diplômes, il faut qu'il y ait vraiment une bonne correspondance entre ce que nous faisons et ce qu'ils font, qu'on essaye aussi de rechercher des mobilités à la fois étudiantes que des enseignants. Mais il en existe, on en a quelques-uns, on doit être une quarantaine à l'île.
L'université Lille 1 a une spécificité, science et puis technologie, aussi sciences sociales. Est-ce que l'ère du temps, et notamment les financements, mettent ces spécificités en valeur et les reconnaissent à leur juste justement en valeur?
Vous voulez parler des financements de l'État? Moi, je pense qu'on est, toutes les universités souffrent à mon avis donc là-dessus. On est dans une situation que tout le monde qualifie de crise, donc les budgets sont plutôt en diminution qu'en augmentation. Si je peux me permettre un avis personnel, c'est que on a un budget global, mais quand on fait, disons, ces sommets, mais ça ne représente pas les sommes que l'on touchait avec toutes je dirais, les actions que nous devons mener effectivement à l'université. Donc l'avantage d'être une grande université, c'est de pouvoir aider lorsqu'on a un manque d'étudiants, lorsqu'on a un manque de moyens, c'est d'en prendre un peu ailleurs pour pouvoir répartir. On est toujours dans un système de répartition.
Est-ce qu'il y a des partenariats qui font des financements externes, arrivent à l'université ?
Le premier partenariat, c'est plutôt, je pense qu'il y a d'abord des partenariats en recherche, mais je parle de ceux de la formation. La formation, c'est l'alternance. Dans l'alternance, il y a ce qu'on appelle les contrats d'apprentissage qui sont financés par Formasup, qui récolte les moyens au niveau, disons donc, de la région, qui les redistribue sur des formations particulières. Mais on a aussi des contrats de professionnalisation où l'État effectivement aide, mais aussi, il y a aussi les entreprises. Après, ça rapporte beaucoup de taxes d'apprentissage en ce qui concerne la formation. Mais on a aussi de la taxe d'apprentissage dite libre, qu'on appelle un peu le hors-quota, qui est donnée, disons, qui est donnée par les entreprises dans le cadre de leur masse salariale à des formations qui ne font pas forcément d'apprentissage. Toutes les formations professionnelles peuvent effectivement en toucher. Mais on aimerait bien en augmenter, mais c'est une somme qui est un peu limitée. La crise aussi est là pour... La masse salariale n'augmentant pas, la masse à distribuer n'augmente pas, donc on plafonne un peu. Le reste, c'est l'île 1 fait bien connu pour la formation continue, donc du coup on en fait beaucoup, soit financé par l'État pour l'aide à retrouver un travail ou des choses comme ça, soit financé directement par les entreprises ou par des personnes, par des individus qui veulent effectivement revenir. Ça nous permet aussi de, disons, d'avoir un peu plus de moyens.
Alors est-ce que pour cette formation continue, il existe aussi une période de rentrée ou bien c'est tout au long de l'année ?
Alors ça dépend. Dans les formations, quand quelqu'un de la formation continue vient suivre un diplôme, il suit le calendrier de l'université pour l'instant. Par contre, il y a des formations dites plutôt donc certifiantes et qu'à ce moment-là, on définit en fonction du groupe qu'on constitue, si ça dure 60 heures ou 120 heures. C'est la rentrée, ça se fait, disons, à des périodes qui changent chaque année en fonction du public que l'on reçoit.
Monsieur Salamouche, il y a eu à la rentrée une cérémonie un peu, je veux dire, officielle, qui est la conférence de rentrée, la conférence inaugurale. Mmh. Vous y étiez ?
Bien sûr.
Comment ça s'est passé ? L'intervenant a traité de quoi ?
Je pense qu'elle a traité, le sujet central était d'université. L'avantage de cette conférence, c'est que je pense qu'il sera historique dans la mesure où elle était préparée par l'île 1 et l'île 3. Et à partir de l'université, de la façon dont l'État traite l'université, des moyens de l'université, mais au-delà aussi, je dirais, la traiter de la science et de la recherche et de la formation.
Cette conférence, on peut la revoir quelque part en mémoire, en archive ?
Bien sûr, elle est enregistrée, donc on peut le voir sur la, disons, ce qu'on peut appeler la télévision de l'île 1.
Donc cette rentrée est engagée, comme vous l'aviez dit, il y a déjà des examens qui se préparent. Il y aura une petite période de vacances là ou pas ?
Bientôt, on est dans une semaine. Mm-hmm. Donc on n'appelle pas ça des vacances, on appelle ça un arrêt pédagogique.
D'accord, tout est en nuance.
Tout en nuance, donc il y en a qui prennent, mais je dirais que pas tous les étudiants, parce que dans certaines formations... Ils travaillent aussi pendant cet arrêt pédagogique parce qu'après, ils ont des stages, ils doivent partir dans les entreprises, dans les institutions pour remplir, disons, terminer leur diplôme.
Alors c'est vrai qu'en master, en deuxième année, en général, à partir de janvier, on est toujours dans l'université, inscrit à l'université, mais en fait, le gros du travail, il est réalisé en entreprise.
Tout à fait, il y en a qui ont des stages, à l'île 1, les stages sont limités à 6 mois. Donc il y en a qui prennent 6 mois effectivement de stage et pour lesquels donc tout le second semestre ils le font soit dans une institution, ça peut être aussi un ministère ou le département, mais c'est souvent effectivement des entreprises. Il faut aussi reconnaître que le stage est un moyen de trouver son premier emploi parce que beaucoup d'étudiants sont employés à l'issue de ce stage-là.
Alors, revenons donc sur les possibilités de stage. En licence, il y a moyen d'aller en stage ou c'est obligatoire? Comment ça se passe après en master? Est-ce qu'il y a des périodes plus longues ou...
Alors, en licence, c'est un stage qui peut dépasser les 2 mois. Généralement, on ne trouve pas toujours des stages pour tous les étudiants de licence. Ils sont quand même assez nombreux. Donc, c'est soit un stage, soit un projet, disons, professionnel. En M1, donc c'est la première année de master, il y a beaucoup de formations qui font effectivement où il y a des stages, qui se situent à peu près en février, mars, à avril. Après, ils reviennent pour terminer l'année. Par contre, dans la deuxième année de licence, c'est une obligation pour tous les masters d'avoir effectivement un stage, aussi pour les licences professionnelles. Donc là, les stages, ils sont entre 3 et 6 mois.
Est-ce que vous ressentez des problèmes liés, par exemple, à l'origine des étudiants? Parce qu'on a parlé de discrimination parfois. Est-ce que vous le ressentez encore maintenant?
Ça peut arriver, effectivement, en particulier dans des entreprises qui travaillent soit pour la défense nationale ou des choses qui sont un peu, donc on attire un peu l'attention. C'est vrai que ça peut arriver. Ça peut arriver aussi dans des petites entreprises où ils n'ont pas beaucoup de moyens de s'occuper de nos étudiants. Je ne voudrais pas dire que ça n'existe pas. C'est vrai que ça existe, mais les raisons sont tout à fait différentes. Effectivement, il peut y avoir une certaine discrimination, peut-être pas forcément par sa couleur, mais par sa culture et son origine.
Il y a des recours ?
Non, en général, ça ne monte pas à ce niveau-là. Ça veut dire que le refus, c'est l'entreprise qui accepte une demande. La demande, grosso modo, ils prennent quelqu'un d'autre à la place de celui-là. Mais on se rend compte que ce qui reste un peu sûr, qui ne trouve pas de stage, sont plutôt des étudiants étrangers.
Le CV anonyme, c'est quelque chose qui se pratique ?
Pas à ma connaissance. Puisqu'il y a assez souvent aussi des entretiens. Ça veut dire que derrière, même si on a un CV anonyme, il y a un entretien. Donc là, on ne peut pas venir avec un masque.
Ouais. Ça peut être une approche pour déjà être accueilli à l'entretien ?
Peut-être, mais dans tous les cas, il faut qu'à la fois l'étudiant partage un peu la vie et la culture de l'entreprise et que l'entreprise s'ouvre un peu plus. La grande difficulté, c'est beaucoup plus dans les petites entreprises où... Pour avoir un stagiaire, il faut le former un peu. Donc, du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Je pense que dans certaines entreprises, ils sont un peu au juste à temps et que c'est difficile de s'occuper effectivement de stagiaires.
Est-ce que vous sentez les entreprises plus sous pression depuis, entre guillemets, la crise hein?
Moi, je ne pourrais pas le dire parce que je ne suis pas en contact direct avec le fonctionnement des entreprises, mais de la vie des collègues, certainement. Je pense qu'actuellement, c'est un peu difficile pour tout le monde.
Monsieur Salamaouche, s'il fallait donner quelques conseils pour aborder cette deuxième période qui attend les étudiants?
Je ne sais pas sur les conseils sur la deuxième période, ça veut dire le second semestre. On est déjà dans le premier, je pense que ce qu'il faut c'est de travailler effectivement donc au jour le jour, ne pas attendre les premiers examens pour pouvoir commencer un peu à réviser. Et un conseil que je peux donner aux étudiants, c'est que quand ils ne travaillent pas et qu'ils sont disponibles, c'est que de venir assister aux cours, de venir assister aux travaux dirigés. Au TP, c'est vrai, on les oblige à venir, mais ailleurs, par moment, ils ne viennent pas. Donc du coup, c'est déjà la première chose à faire. Et après, c'est de travailler au jour le jour. Je pense qu'il y a... Ce qu'ils recherchent des stages sont déjà, je pense, donc en recherche, et qu'ils s'appliquent à bien faire... Bien montrer leur motivation pour ce qu'ils veulent faire, bien montrer leur projet professionnel et l'intérêt aussi pour le travail qu'ils vont assurer dans le cadre d'une entreprise, mais aussi pour l'entreprise elle-même.
Est-ce que les étudiants qui ont des nécessités économiques de devoir travailler, d'avoir un job, cela leur pose des problèmes de plus en plus forts, vous les constatez ? On m'a dit aussi que des étudiants ne mangeaient pas à leur faim et qu'il y avait des associations qui s'occupaient de ce problème, à Lille notamment.
Tout à fait. Donc à Lille 1, effectivement, des aides qui sont apportées, mais je pense que Lille 1 n'a pas les moyens de pouvoir... On aide plutôt des étudiants, disons, accidentés économiquement ou socialement, c'est ce qu'on appelle le FSDE. Il est vrai que les étudiants qui travaillent, ne venant pas au cours, ne venant pas au TD, par moments sont... presque obligés, je dirais, de rater les examens, ne réussissent pas tout à fait l'année. Je peux dire ici leur conseil que je peux faire, puisque depuis maintenant 5 ans, le règlement des études autorise les étudiants à s'inscrire à peu d'unités dans un semestre. S'il y en a 6 unités, ils peuvent en faire 2 ou 3 suivant leur disponibilité. Et que c'est, ils peuvent rester dans une dynamique de réussite, alors que courir les 6 unités, c'est peut-être difficile pour eux. On le voit aussi sur la population des étudiants étrangers qui, lorsqu'ils arrivent, pour certains, réussissent par moment du premier coup leur premier semestre, et leur second semestre, ils traînent un peu parce qu'on suppose qu'ils travaillent derrière et que leur travail les empêche un peu de mener leurs études dans les meilleures conditions.
Voilà, j'allais dire qu'on est presque à la fin de l'année. Si vous aviez un vœu à formuler pour 2013 ?
Qu'on fasse réussir tous nos étudiants.
Voilà, votre équipe est motivée pour le faire de toute façon ?
Tout à fait, je suis là pour ça. Et puis, je pense que tout le monde est motivé. Il faut qu'il y ait aussi, non seulement un travail du côté donc des collègues, chose qu'ils font déjà, mais aussi un travail un peu plus important du côté des étudiants. On ne peut pas réussir si on ne vient pas aux cours et aux travaux dirigés, sauf si on est effectivement exceptionnel.
On peut aussi conseiller à ces étudiants de participer à la vie culturelle de l'université.
Tout à fait, mais ça, je pense qu'il y a quand même il y a la MDE qui est gérée par les étudiants et qui est pour les étudiants. Il y a beaucoup d'associations donc, sur l'île 1. Il y a des activités qui sont organisées par des étudiants, aussi bien d'ailleurs étrangers que donc que nationaux. Cela, je pense qu'ils participent déjà, qu'ils fassent mieux, qu'ils fassent des choses de qualité, bien sûr. Mais je pense que le vœu que l'on peut faire, c'est qu'un étudiant, quand il rentre à l'université, qu'il puisse réussir. Je dirais réussir, c'est pas uniquement de manière académique. C'est plutôt d'arriver un peu à satisfaire ses objectifs, son projet professionnel et personnel, qu'il s'épanouisse après dans la vie.
Alors il y a bien sûr aussi les activités de l'espace culture, les concerts, les animations, les conférences, et puis cette année le Pass Culture.
Tout à fait, donc ils peuvent bénéficier à la fois des activités qui sont organisées donc, sur l'île 1, sur le campus, mais aussi aller voir des musées ou des pièces de théâtre ou par l'intermédiaire du Pass Culture.
Je vous remercie Monsieur Salah Maouch.
Je vous en prie, c'est un plaisir que je reviendrai.
Quand vous voulez.